Europe 1. Europe 1.
14h, 15h.
On de la traconte.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, une affaire criminelle qui, au final, n'en est pas une. L'histoire de Geneviève et André Gournier, que l'on retrouve morts chez eux un matin de novembre 1999. Au début, on pense à un suicide ou au minimum à un meurtre suivi d'un suicide. Et puis on accuse leur fils, Jean-Paul, de les avoir tués. Et puis finalement, Jean-Paul est blanchi. Tellement blanchi qu'il est là, au téléphone. Bonjour Jean-Paul Gournier.
Bonjour Christophe Ondelatte.
Et merci d'avoir accepté de revenir après mon récit sur cette histoire qui, je m'en doute, a bouleversé votre vie. Voici donc cette histoire que j'ai écrite avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebrun.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Je vous emmène dans la banlieue de Saint-Étienne, à Saint-Prié-en-Jarret, un matin de novembre 1999. Vous voyez la grande maison, là? Oui, la maison au volet blanc. Arrêtez-vous. C'est là que ça se passe. Chez André et Geneviève Gournier. Lui est un chef d'entreprise à la retraite de 75 ans. Elle est un peu plus âgée. 6 ans de plus. 81 ans. Ah! Voilà Joséphine, la femme de ménage. Suivons-la du regard. Elle passe le portail, tiens, il est ouvert, bizarre. Elle emprunte l'escalier, les lumières extérieures sont allumées. Étonnant, la voilà qui sonne. Pas de réponse. Ça, c'est pas normal. La voisine est une amie du couple, elle a peut-être les clés. Ah, elle ne les a pas. Bon, vous me dites que vous sonnez et qu'ils ne répondent pas? Voyons, je vais essayer de les appeler. Ils ne répondent pas non plus. Bougez pas, je vais appeler leur fils Jean-Paul. Il habite pas loin, à 500 mètres. Lui, il doit avoir les clés. Marie-Caroline? Bonjour, c'est Juliette, la voisine de vos beaux-parents. Jean-Paul est là? Il est au travail. Dites-moi, je suis avec la femme de ménage de vos beaux-parents, là, Joséphine. Elle a sonné, ils répondent pas. Et moi, je viens de les appeler, ils répondent pas non plus. Vous arrivez? Entendu, on vous attend. La belle-fille appelle les pompiers et elle arrive en même temps qu'eux devant la villa. Le mieux, c'est d'enfoncer la porte, hein. C'est peut-être pas utile, non? Ils sont peut-être simplement sortis faire une course? Peut-être. Mais les pompiers finissent quand même par forcer la porte du garage. Et ils entrent dans la maison d'André et Geneviève Gournier. Les lumières du rez-de-chaussée sont allumées. Et là, ils entendent des gens qui parlent. Ils s'approchent de la salle à manger. C'est la télé qui est allumée. Les pompiers arrivent dans le salon. Ouf ! Ils sont là ! Geneviève est assise dans un fauteuil, elle a l'air de faire un petit somme, et André est couché sur le canapé, les yeux fermés. Il a l'air de dormir lui aussi. Les pompiers s'approchent, ils les touchent. Ils sont froids. Ils sont morts. Ils ont dû se suicider, tous les deux ensemble. La maison est fermée de l'intérieur, il n'y a pas de traces d'effraction. Il ne présente pas de blessure. Si, André a une petite plaie sur le crâne, mais il y a un pansement dessus. Ils ont dû se donner la mort, main dans la main. Les pompiers cherchent une lettre, un mot d'adieu, des médicaments qu'ils auraient pu avaler, rien. En revanche, dans la cuisine, le gaz est ouvert. Mais il n'y a pas d'odeur et la bonbonne de gaz est vide. L'un des pompiers teste la présence de monoxyde de carbone, il n'y en a pas. Plus étrange, dans la chambre, leur chambre, le fer à repasser est branché. Et comme il est posé sur un rideau en nylon, forcément, ça a fait un gros trou. Très bizarre, tout ça. Le fils, Jean-Paul, est médecin dans une clinique. Sa femme l'appelle pour le prévenir. Il arrive immédiatement. Il entre. Il les voit. Il va les embrasser. Et quand le légiste arrive, il va le voir tout de suite.
Ah bonjour, docteur. Je suis leur fils. Je suis médecin. Je pense qu'ils sont morts d'une cause respiratoire. Leurs mains et leurs lèvres sont cyanosées.
Les policiers sont arrivés eux aussi.
Quand avez-vous vu vos parents pour la dernière fois?
Avant-hier?
Oui, c'est ça. Ma mère m'a appelé parce que mon père venait de tomber. Il s'était ouvert la tête. Je les ai pas trouvés en forme, pour vous dire la vérité. Mon père était somnolent. Ma mère, on aurait dit qu'elle avait bu, mais elle ne boit pas, ni mon père d'ailleurs. Ma mère m'a dit qu'ils avaient mangé des champignons la veille au soir. Je me suis dit que c'était peut-être ça. Je leur ai proposé de les faire hospitaliser à ma clinique. Ils ont pas voulu.
Et depuis, vous avez des nouvelles?
Oui. Je suis repassé hier matin, ils allaient mieux. Et je suis repassé hier soir pour leur faire des prises de sang. J'ai d'ailleurs toujours les tubes dans la voiture, vous les voulez?
Quoi qu'il en soit, le procureur ordonne une autopsie. Ils ont mangé des champignons chez des amis l'avant-veille. C'est peut-être ça. Ou alors ils ont avalé des médicaments. On va vite savoir. Et en attendant, les policiers appellent les amis chez qui ils ont dîné.
Je leur ai bien fait une omelette aux champignons samedi soir. Mais c'était des pleurotes. Et puis nous, ni moi ni mon mari n'avons été malades. Hein. Ça peut pas être mes champignons.
On vient de recevoir les résultats de l'autopsie. Les biologistes ont analysé le contenu de leur estomac. Pas de traces de champignons dangereux, pas de traces de gaz dans leur sang, la piste de la bouteille de gaz vide se referme donc, et pas non plus de traces de médicaments. Et sur leur corps, pas de coups, pas de blessures. Si ce n'est cette plaie sur le crâne de Jean-Paul et une piqûre sur le bras de Geneviève qui peut très bien correspondre à la prise de sang pratiquée par son fils. Le médecin légiste conclut qu'ils sont morts tous les deux d'un trouble cardiaque. Tous les deux? En même temps? Un infarctus simultané? Statistiquement, c'est possible. Mais ça n'arrive pas tous les jours. Le juge d'instruction se dit « l'autopsie a été bâclée, un truc a dû leur échapper ». Et donc, il demande une nouvelle analyse du contenu de leur estomac à un laboratoire de Lyon. On le prévient, ça va prendre un peu de temps. Et donc, en attendant les résultats, il faut que je vous raconte qui étaient André et Geneviève Gournier. C'était un couple très... particulier, très original, ou pas d'ailleurs. Les couples tordus, ça n'est pas ça qui manque. Ils se sont rencontrés juste après la guerre au Sénégal, qui à l'époque était encore une colonie française. André était jeune ingénieur des arts et métiers, et elle, secrétaire de direction, divorcée. Ils se marient à Dakar en 1952, et naissent dans l'ordre Marie-Béatrice et Jean-Paul que vous connaissez déjà. Et puis dans les années 60, au moment de l'indépendance du Sénégal, toute la petite famille rentre en France, dans la région de Saint-Étienne. André prend la direction d'une usine, et Geneviève devient mère de famille au foyer. D'après ce que disent les gens, tout va bien jusqu'en 1974. Et là d'un coup, tout bascule. Geneviève découvre qu'André la trompe. Et à partir de là, ils ne divorcent pas, hein. Mais ils se mettent à vivre des vies séparées, parallèles. Pour commencer, ils font chambre à part. Elle part en vacances toute seule et lui passe ses journées sans elle, au golf ou au bridge. Ils prennent même leur repas séparément. Et pendant 25 ans, Geneviève fait payer à André son infidélité. Un jour, par exemple, elle verse 6 litres d'eau dans le réservoir de sa voiture. Sympa, hein ? Les gens racontent que dès qu'il a le dos tourné, même devant ses petits-enfants, elle lui fait des bras d'honneur. L'autre, évidemment, continue de la tromper. Quand elle s'en aperçoit, elle embauche un détective privé qui lui révèle que la maîtresse de son mari est une prostituée. Ça la met dans une rage. Elle se sent humiliée. Les gens racontent qu'à l'époque, elle leur montre régulièrement un fusil de chasse qu'ils ont ramené d'Afrique, en leur disant « Tu vois ce fusil ? Il tuera Gournier !» Ah, c'est intéressant ça, parce que ça ouvre une autre piste que le suicide à deux. Elle le tue. Et après, elle se tue. Elle se suicide. Parce que elle était dépressive. Ça, les gens le disent. Il semble que dans les semaines qui précèdent sa mort, Geneviève ait dit à plusieurs reprises qu'elle ne supportait pas la déchéance physique de la vieillesse. Elle a parlé d'en finir. Mais à côté de ça, une de ses amies raconte « Oh ben, elle m'a demandé il y a pas longtemps de lui acheter une pièce de tissu pour se faire une robe, chez un grand couturier à Paris. » Est-ce qu'on se fait une robe quand on a l'intention d'en finir ? Quoi qu'il en soit, les enfants croient dur comme fer à l'idée d'un suicide. Et d'ailleurs, quand la justice leur rend les corps, ils veulent les incinérer. Les naïfs. Le juge qui n'y croit pas à 100% refuse. Mais en nettoyant et en rangeant la maison de leurs parents, Jean-Paul et Marie-Béatrice, les deux enfants, ne trouvent que des preuves d'un suicide. Par exemple, tiens, les bijoux de Geneviève. Sur chacun d'entre eux, il y a une petite étiquette qui indique à chaque fois le prénom des petits-enfants. Le bracelet pour une telle, la bague pour telle autre. Est-ce que ça n'est pas la preuve qu'elle a préparé sa mort, ça ? Il tombe aussi sur une lettre dans laquelle André et Geneviève expliquent à leurs petits-enfants qu'ils ont ouvert à chacun un compte épargne. Un courrier, c'est assez rare pour être signalé, co-signé des deux. Et enfin, on s'aperçoit qu'André Gournier a clos ses comptes en banque 15 jours avant sa mort. C'est un signe, ça. Dernière chose. Dans les semaines qui précèdent leur mort, les Gournier vont voir leur famille à Reims, ce qu'ils font rarement, comme une tournée d'adieu. Et quand on dit aux enfants « Oui, mais il y a tout de même ce projet de vacances en Birmanie », ils avaient prévu d'aller en vacances en Birmanie, ils avaient réservé. Les enfants répondent « C'est un leurre ». La preuve, leur mère avait fait une chute dans sa chambre, elle ne pouvait plus faire de longs trajets. C'est un suicide, je vous dis. Un double suicide ou un meurtre suivi d'un suicide. Vous vous souvenez que le juge, qui ne croyait pas au résultat de l'autopsie, a réclamé une nouvelle analyse toxicologique du contenu de l'estomac de Geneviève et André et de leur sang. Celui qu'on a retrouvé dans leur corps et celui que leur fils Jean-Paul a prélevé la veille. Il a eu bien raison, le juge, car les résultats sont un tremblement de terre dans cette enquête. Dans le sang prélevé sur les deux cadavres, on a trouvé du tracrium, un anesthésiant à base de curare utilisé en milieu hospitalier, dont l'effet est de paralyser les muscles, y compris les muscles respiratoires. Le tracrium ne s'administre que par voie intraveineuse, autrement dit avec une seringue ou une perfusion. Et là, bien sûr, vous pensez la même chose que moi, n'est-ce pas ? Et la même chose que le juge. Jean-Paul, le fils, qui est médecin, il a accès à ce genre de produit. Est-ce que ça n'est pas lui qui a tué ses parents ? Le 17 juin 2000, le procureur de la République ouvre une information judiciaire contre X pour empoisonnement avec préméditation. À partir de là, le juge a donc trois hypothèses sur la table. La première, ils se sont suicidés ensemble, ce qu'on a peine à croire puisqu'ils étaient en guerre. La seconde, Geneviève tue André et se suicide après. Et la troisième, qui vient de surgir dans l'enquête, Jean-Paul le fils, les tue tous les deux. Laquelle va émerger ? Les policiers ont reconstitué l'emploi du temps du couple dans les heures qui précèdent leur mort. C'est comme ça qu'ils apprennent que lors du fameux dîner de champignons chez leurs amis, Geneviève aurait évoqué leur divorce prochain. Elle a dit à sa copine Françoise, en arrivant chez elle, « Je suis folle de joie, André a enfin accepté de divorcer. » Et ça ruine la thèse du meurtre suivi d'un suicide. Pourquoi mourir ou pourquoi le tuer et mourir après si le divorce est acquis, si elle a enfin gagner sa liberté. Le lendemain dimanche, après un déjeuner en famille, André va voir sa maîtresse, la prostituée. Et en rentrant en voiture, il fait un petit malaise. Il percute la glissière de sécurité. Un accident sans aucune gravité, mais la voiture est HS. Il doit rentrer en taxi. Les policiers ont retrouvé le chauffeur de taxi.
À mon avis, il était saoul, hein. Ben, ça se voyait. Quand je l'ai chargé, il a roupillé pendant tout le trajet. Pour moi, il avait bu. Et d'ailleurs, quand il est arrivé, il retrouvait pas ses clés.
Est-ce que Jean-Paul a vraiment bu? Ça ne lui ressemble pas, mais peut-être qu'il boit ce jour-là pour se donner du courage avant la mort programmée.
Ensuite, c'est confirmé par le relevé du téléphone, Geneviève appelle son fils vers 19h30 pour lui dire que son père ne se sent pas bien. Le fils vient, il soigne la blessure que son père a sur le crâne. Le lendemain, André passe l'après-midi à son club de bridge. Ses amis disent qu'ils ne l'ont pas trouvé en forme et qu'aux cartes il a fait des erreurs, qu'il ne fait jamais. Le soir, le fils Jean-Paul revient chez ses parents pour leur faire la fameuse prise de sang. Il arrive entre 19h30 et 19h40 et effectue la prise de sang vers 20h. Le même soir, sa sœur Marie-Béatrice dit qu'elle appelle ses parents à 20h30.
« J'ai laissé sonner. » Personne n'a décroché.
Donc, Jean-Paul le fiston est le dernier à avoir vu ses parents vivants. Là-dessus, la femme de ménage raconte une drôle d'histoire.
« Ah ben j'ai vu Madame Gournier mettre des comprimés dans le café de son mari. Ah ça oui, plusieurs fois. »
Intéressant ça aussi. Ça pourrait expliquer les malaises d'André et corroborer la thèse du meurtre suivi d'un suicide. Mais on n'a pas trouvé de traces de médicaments dans le sang d'André. On a retrouvé du tracrium, et ça ne se prend pas en comprimé. L'hypothèse retenue est que Geneviève glissait des comprimés dans le café de son mari pour qu'il bande mou quand il allait voir sa maîtresse. Pas pour le tuer. Alors maintenant, le tracrium, justement. On est certain que c'est ça qui les a tués tous les deux. Mais on ne peut pas dire avec certitude que c'est leur fils médecin qui le leur a administré. Il existe une hypothèse dans laquelle les parents Gournier se procurent cet anesthésiant pour se suicider. Alors est-ce qu'on a trouvé une seringue dans la maison après leur mort? Ou un flacon de tracrium? Eh ben non. Mais en même temps, comme on est parti sur un suicide, on n'a pas non plus retourné la maison. Et 6 mois plus tard, ben, c'est trop tard. Mais si les deux sont morts d'une injection de tracrium, il devrait y avoir des traces de piqûres sur leur corps. Or, vous vous souvenez qu'on ne trouve de traces de piqûres que sur le corps de Geneviève, qu'on a attribué à la prise de sang, pas sur celui d'André. Cela dit, comme le légiste a bâclé son travail, il ne l'a peut-être pas vu. À ce stade de l'enquête, le juge est de plus en plus convaincu que le fils, Jean-Paul Gournier, a tué ses parents. Les policiers pourraient l'arrêter tout de suite. Ils ont un atout dans leur jeu, Jean-Paul ne sait pas pour le tracrium. Mais le juge décide d'attendre. Le juge attend 4 mois avant d'oser ordonner l'arrestation de Jean-Paul Gournier. Mettez-vous à sa place, c'est pas facile. C'est un notable, il est chirurgien, dans une clinique. Faut pas se planter.
Et puis finalement, presque un an après la mort des époux Gournier.
Oui, bonjour monsieur Gournier. J'aimerais vous revoir une dernière fois pour clôturer le dossier de vos parents. Vous pouvez passer ?
Le fils va au commissariat en confiance. Et ?
Bonjour monsieur Gournier. Je vous informe qu'à dater de maintenant, vous êtes placé en garde à vue dans le cadre d'une information pour empoisonnement avec préméditation.
C'est une plaisanterie ?
Non. Vous avez le droit de passer un coup de téléphone. Monsieur Gournier, vos parents sont morts empoisonnés par du tracrium. Qu'avez-vous à dire là-dessus ?
Oh ben ça m'étonne pas de maman.
C'est-à-dire ? Vous pensez qu'elle s'en est procurée ? Enfin, c'est un produit qui est sous clé. On compte les ampoules partout où il est utilisé.
Mais non, pas du tout.
Si vous voulez, on traverse la rue et je vous montre où est rangé le tracrium à la polyclinique. Vous pouvez en prendre une pleine poignée et revenir.
Les policiers semblent le croire, puisqu'au bout de 3h30 de garde à vue, ils le relâchent.
Mais le juge, lui, ne lâche pas l'affaire. Il missionne un expert de Lyon pour en savoir plus sur le tracrium et sur les doses retrouvées dans le sang des parents Gournier. Réponse de l'expert. Les doses sont élevées et mortelles. Ils sont morts en quelques minutes à la suite d'une insuffisance respiratoire qui a entraîné un arrêt cardiaque. Et donc sur cette base, 3 mois après sa garde à vue, le juge d'instruction met Jean-Paul Gournier en examen pour empoisonnement avec préméditation. Mais il le laisse libre. Et Jean-Paul Gournier, libre, continue de se défendre comme un diable. Il continue de défendre l'idée du suicide de ses parents. Et d'ailleurs, il apporte au juge une cassette que sa mère a enregistrée sur un dictaphone à l'intention de son père. Écoutez cette cassette que j'ai retrouvée, monsieur le juge.
Tu as été dégoûtant. Tu as sali et pris pour un bordel la maison familiale. Jamais je ne te pardonnerai d'avoir amené une prostituée à la maison.
Pour Jean-Paul, c'est une preuve de plus que sa mère bafouée a tué son père avant de se suicider. Là-dessus, le juge est muté, alors qu'entre nous, il s'apprêtait à prendre une ordonnance de non-lieu. Un nouveau juge est nommé qui va s'intéresser à un point jusque-là négligé. Est-ce que Jean-Paul avait un intérêt à tuer ses parents ? Et notamment, un intérêt financier, oui. C'est en général pour ça qu'on tue ses vieux. C'est pour hériter. On comprend que la piste ait été négligée puisque Jean-Paul est chirurgien cardiaque. Ça gagne bien, hein ? On ne pouvait pas envisager qu'il ait des problèmes d'argent. Eh ben si, il en a, et de gros. Au moment de la mort de ses parents, Jean-Paul Gournier, qui gagne près de 40 000 francs par mois, c'est-à-dire un peu plus de 6 000 euros, est très endetté. Il a effectué 460 000 euros de travaux dans sa villa, il a emprunté 60 000 euros à sa mère, et il doit rembourser tous les mois, écoutez bien, une fois et demie son salaire. Le jour où ses parents meurent, il est à découvert de 177 000 francs, 27 000 euros. Le voilà, le mobile, hérité. On a calculé que l'héritage, à partager avec sa sœur bien sûr, lui rapporte 2 500 000 francs, soit environ 380 000 euros. Le voilà, le mobile, la thune. Dans 80% des cas, c'est pour ça qu'on tue. Mais le juge, pour bétonner son dossier, veut quand même explorer à fond la thèse du suicide. Enfin, la thèse selon laquelle Geneviève tue André et se suicide après. Pour ça, il missionne des experts. Question, est-ce qu'il est possible de se suicider avec du tracrium ? C'est-à-dire de s'injecter le produit et de se débarrasser de la seringue, puisqu'on ne l'a pas retrouvée, et de revenir sur le canapé, et là de mourir. Réponse de l'expert, non, ça va trop vite. Après l'injection, on s'effondre tout de suite. Geneviève n'a pas eu le temps de se débarrasser de la seringue. Or, on n'a pas retrouvé de seringue près du corps, et pas non plus de flacon de tracrium. Ça, c'est terrible pour Jean-Paul, qui riposte par la voix de son avocat, Maître Saint-Pierre, l'un des ténors du barreau de Lyon. Et si Geneviève, après s'être injecté le tracrium, avait jeté la seringue et le flacon dans la cheminée? Regardez la photo de la scène de crime, dit l'avocat. Regardez! Il y a des cendres dans la cheminée. Et bien sûr, on n'a pas fouillé à l'époque, puisque c'était un suicide. Elle est là, la seringue. Il est là, le flacon de tracrium, dans les cendres de la cheminée. Enfin, possiblement. C'est une jolie démonstration, mais qui ne pèse pas beaucoup comparé à tout le reste. Le 16 février 2006, 6 ans après la découverte des corps de Geneviève et André Gournier, le juge renvoie leur fils Jean-Paul devant la cour d'assises pour empoisonnement sur ascendant. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Mais il est libre, et donc il donne des interviews à la presse locale pour dire « c'est pas vrai, mes parents se sont suicidés ». Et là, de nouveaux témoins apparaissent. Une amie de Geneviève, par exemple, appelle la police.
« Ah ben, 4 mois avant de mourir, Geneviève m'a dit qu'elle allait mal, hein, qu'elle en avait marre, qu'elle allait empoisonner son mari et se supprimer ensuite. Elle me l'a dit, et elle avait l'air très déterminée. »
2 jours plus tard, un commerçant écrit au président du tribunal.
« 3 semaines avant de mourir, André m'a dit qu'il était atteint d'un début d'Alzheimer et qu'il supportait pas la déchéance. »
Le mois suivant, 2 femmes écrivent au tribunal pour témoigner de la colère de Geneviève envers son mari. Geneviève leur aurait dit « J'ai tout ce qu'il faut, j'ai vécu en Afrique. » Et donc, on ne peut pas aller devant les assises comme ça. Il faut vérifier si ces gens sont de bonne foi ou s'ils sont manipulés par Jean-Paul Gournier. Le juge se remet donc au travail et il conclut que non, que ces témoins sont fiables. Maintenant, on va pouvoir juger Jean-Paul. Le procès s'ouvre devant la cour d'assises de Saint-Étienne le 16 juin 2008, c'est-à-dire 8 ans après la mort d'André et Geneviève. Il doit durer 4 jours. Jean-Paul Gournier comparaît libre. La veille, il opérait encore. Et tout ce procès tient dans son attitude. Il est sûr de lui, trop, trop détendu, trop arrogant. Il parle trop, il en fait trop, il est agaçant. Le verdict tombe le 19 juin, après 3 heures de délibéré. Jean-Paul Gournier est reconnu coupable et il est condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Sur son banc, il est sonné. Pas un mot. Et puis, lui qui jusque-là avait échappé à la prison, est arrêté sur le champ. Le lendemain, bien sûr, depuis sa prison, il fait appel. Le procès devant la cour d'assises d'appel de Lyon a lieu 1 an plus tard. Et là, évidemment, changement d'attitude. Ses nouveaux avocats lui ont conseillé de jouer profil bas, de jouer le fils aimant, le fils proche de ses parents. Et sa défense fait citer un expert privé qu'elle a fait venir du Canada.
« Madame Gournier, compte tenu des taux de tracrium qu'on retrouve dans son sang, a parfaitement pu s'injecter le produit, jeter la seringue et le flacon par exemple dans une poubelle, et faire 3 pas comme ça, 1, 2, 3 pour aller jusqu'au fauteuil où on la retrouve morte. Et ça, malgré la dose du produit. Je considère que c'est possible. »
Et à la fin du procès.
« Monsieur Gournier, levez-vous. Avez-vous quelque chose à déclarer à la cour avant qu'elle ne se retire pour délibérer ?»
«
Et là, Jean-Paul tient à la main une photo de ses parents. Et il parle d'eux. Et il dit qu'il les aime. Il est poignant. Et après 5 heures de délibéré, il est acquitté. Il sort de prison le soir même.
Il est 22h30, Jean-Paul Gournier sort libre de la prison de Corba où il était incarcéré ces dernières semaines.
Bon, allez, ça y est, c'est fini, le cauchemar est fini.
Le cauchemar est fini, oui.
Effectivement, c'est la fin d'un cauchemar qui aura duré presque 10 ans. 10 ans d'injustice, mais ça, on en reparlera plus tard. Là, pour l'instant, je suis rentré avec les miens et je suis très heureux que la justice de mon pays ait enfin reconnu mon innocence.
Retrouvez Christophe Ondelatte 7 jours sur 7 de 14h à 15h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.
Et il est là, Jean-Paul Gournier, il est avec moi au téléphone. Merci Jean-Paul Gournier de m'avoir fait confiance. 10 ans après, qu'est-ce qu'il reste de cette terrible histoire qui, je suppose, a fracassé votre vie?
Alors, d'abord, je vais vous remercier pour le récit que vous avez fait. Vous voyez, j'ai un peu de mal, là, qui est très fiable.
Merci.
Qui relate vraiment l'histoire comme elle s'est passée.
Merci beaucoup.
Maintenant, vous vous rendez compte d'être accusé d'avoir tué père et mère, c'est une horreur, surtout que j'ai eu des parents exceptionnels, avec leurs qualités et leurs défauts, hein. Je veux dire, papa, maman, c'est vrai que jusqu'en 74, j'avais les parents idéaux, après, y a eu la scission entre papa et maman, mais moi, je suis resté à la maison jusqu'à ce que je sois nommé interne des hôpitaux à Marseille, c'est-à-dire jusqu'à 24 ans. Je n'ai jamais pris part à leurs disputes.
Vous n'avez jamais choisi l'un plutôt que l'autre?
Ah non, non, non. Vous voyez, c'est une amie de maman qui m'avait toujours dit « Tu n'as pas le droit de juger tes parents et on n'a pas le droit de juger ses parents. Ils ont leurs qualités, leurs défauts. Moi aussi, j'ai mes qualités, mes défauts. Faut que mes enfants fassent avec. » En revanche, effectivement, j'aimerais revenir sur deux choses. Premièrement, vous avez dit que le tracrium s'injecte que par voie intraveineuse. Ça, c'est faux, parce que tout produit qui s'injecte par voie veineuse peut s'injecter par voie intramusculaire ou subcutanée. Par exemple, le tracrium est utilisé en voie subcutanée en chirurgie pédiatrique.
Dans mon esprit, je reconnais que n'étant pas médecin, pour moi, était important, c'est la seringue. C'est-à-dire, pour l'injecter, quoi qu'il en soit, il faut une seringue.
Il faut une seringue. Mais même si on prend l'hypothèse d'une seringue, d'une injection intraveineuse, qui est effectivement la voie la plus rapide, c'est là où je suis un petit peu encore en colère contre les experts. Le professeur Liénard avait écrit sur son premier rapport « Madame Gournier, après cette injection massive de tracrium, avait 2 minutes au maximum pour déambuler. » 2 minutes, il l'a écrit, c'est écrit sur son rapport.
C'est beaucoup, 2 minutes.
2 minutes pour faire 3 mètres pour aller dans une cheminée, oui, c'est énorme. Et c'est ce qu'a confirmé. Par contre, lorsqu'il a témoigné au premier procès, il a dit que maman n'avait pas le temps de se lever.
Je vous propose, docteur Gournier, on va revenir sur les faits eux-mêmes. Je voudrais juste boucler l'après-acquittement. Aujourd'hui, ces 10 dernières années, vous avez repris votre travail de chirurgien, ça n'a posé aucun problème.
Ça n'a posé aucun problème et là aussi, vous voyez, mon conseil de l'ordre, même le temps que j'étais enfermé, m'a fait confiance. Je n'ai pas eu de suspension, je n'ai pas eu de blâme ou quoi que ce soit. Le président du conseil de l'ordre de la Loire, à l'époque le docteur Jean-Louis Blanc, est allé voir le président national du conseil de l'ordre en disant « Voilà, moi je connais Jean-Paul Gournier, c'est impossible ». Et le conseil national a dit « Si vous voulez soutenir votre sociétaire, il n'y a pas de problème ». Et je n'ai jamais eu de blâme ou été suspendu par le Conseil de l'Ordre.
Vous avez repris votre vie de médecin normalement. Je suppose, pardon, ça ne doit pas être facile à vivre, mais que des tas de gens doivent continuer aujourd'hui à penser que vous avez tué vos parents. Ça n'a rien changé à l'exercice de votre profession ?
Non. Alors, je vais vous dire, j'avais non seulement la confiance de mes confrères, si vous saviez les lettres de malades poignantes que j'ai reçues quand j'étais en prison, c'était quelque chose de phénoménal. Je veux dire, il n'y a pas un de mes anciens malades qui m'a lâché. Après, vous ne pouvez pas empêcher une certaine partie des gens de penser qu'il n'y a pas de fumée sans feu, etc. Ça, j'y changerai jamais rien.
Mais vous habitez toujours au même endroit, vous n'avez pas déménagé?
Ah non, j'ai déménagé parce que je suis tombé amoureux d'une Lyonnaise, donc maintenant j'habite Charbonnières-les-Bains. Et malheureusement, je ne fais plus de chirurgie parce que j'ai eu un accident de la main, et maintenant je fais de l'expertise médicale. Mais si je n'avais pas eu cet accident de la main, moi j'avais repris ma carrière chirurgicale comme la veille où je m'étais arrêté d'opérer, et j'ai repris comme si quelque part de rien n'était, et tout le monde était derrière moi. Donc effectivement, forcément, il y a des gens qui pensent toujours qu'il y a toujours un doute. Il n'y a aucun doute. Quand on connaît bien le dossier, il n'y a aucun doute.
On est d'accord. Ça appelle une petite question. Vous dites que vous êtes devenu expert médical alors que vous-même, d'une certaine manière, avez été victime des experts médicaux. Est-ce que ça vous incite à la prudence en tant qu'expert, ça ?
Bien sûr, bien sûr. Et je pense qu'on a besoin d'une vraie réforme en France de l'expertise judiciaire. Bien sûr que ça m'incite à la prudence, à faire des hypothèses. Il y a des fois, effectivement, on peut être sûr. Il y a des fois, on peut être sûr, ça c'est sûr. Mais il y a des fois, quand on doute, on dit, il y a telle hypothèse, il y a telle hypothèse, il y a telle hypothèse. Mmh. Et ce que je reproche profondément à tout, mais alors tous les experts sauf M. Bévan, de ne pas avoir fait d'hypothèse, d'avoir des fois écrit juste et dit faux à la barre. C'est complètement dingue, hein.
Une dernière chose avant qu'on marque une pause de publicité. Mmh. Vous regrettez, j'imagine, la nuit dans des cauchemars, ce premier procès où vous vous comportez mal, ça vous en convenez?
J'en suis non seulement, j'en conviens, je pense que je suis pour 30% au moins responsable
du verdict.
Du verdict, oui, effectivement.
Pourquoi vous vous comportez comme ça?
Parce que c'était tellement l'évidence pour moi que c'était l'impossibilité que j'ai fait ça, que je me suis retrouvé aussi, il y a eu un affrontement de personnalité entre moi et le président du tribunal, qui était le juge Blaise, et Madame Dufournet. Effectivement, autant le deuxième procès avec le président Catelin, qui a été un président hors norme, qui a apaisé les débats, qui a laissé faire les débats, qui a laissé résonner la voix de maman dans l'enceinte du tribunal, ce qu'avait refusé Monsieur Blaise. Si vous voulez, après, avec le président Catelin, j'étais en confiance. Et puis, effectivement, après un an, comme je le dis, de monastère, vous avez eu le temps de réfléchir, de dire qu'est-ce qui ne va pas. Vous savez, quand vous êtes chirurgien, vous êtes quelqu'un qui est sûr de vous. Pour aller opérer quelqu'un, mettre un coup de bistouri, fendre un sternum et aborder un cœur, vous avez besoin d'une sûreté en vous qui est importante. Et effectivement, cette personnalité-là est repartie. Et en plus de ça, en tant que professionnel, quand je lisais toutes les bêtises qui étaient écrites.
Je voudrais, Jean-Paul Gournier, que vous nous disiez, parce que vous connaissez suffisamment le dossier pour aujourd'hui pouvoir dire les choses, de quoi sont morts, comment sont morts finalement vos parents?
Alors, mes parents sont morts de l'injection de tracrium, ça c'est une évidence. Mais maintenant, quel est le scénario? Alors, si on repart sur le scénario et qu'a très bien fait les enquêteurs de police. Hein. Mon père ne peut pas rentrer avant 7h30 à la maison, hein, puisqu'il était au bridge, et il rentre à 7h30. Je fais les prises de sang, effectivement, aux alentours de 8h. Maman me propose de prendre la soupe avec eux, et j'ai dit, écoute, non, pour une fois, je vais pouvoir manger avec mes enfants, je rentre à la maison. Donc, je suis parti de la maison, il était 8h05. Après ce qui s'est passé avec l'enquête, et quand on m'a demandé le lendemain, j'ai dit « oui, maman m'a proposé une soupe de légumes ». Dans les estomacs de mes parents, dans l'estomac de mon père, il est retrouvé par les médecins légistes, enfin c'est surtout l'officier de police qui le note, une soupe de légumes en voie de digestion, c'est-à-dire qu'il y avait encore des carottes et des haricots verts qui flottaient. Dans l'estomac de maman, il y avait une soupe de légumes, la même, mais en fin de digestion, c'est-à-dire que vous n'aviez plus de morceaux. Donc le vrai scénario, c'est effectivement maman qui a dû faire l'injection de curare à papa vers 21h, 21h30, et la sienne, elle, vers minuit, minuit et demi. Ils ont mangé la soupe en commun, et effectivement, alors, maintenant, est-ce que papa était d'accord ou pas? Ça, c'est la vraie question. Et bon, ma sœur et moi, On est intimement persuadé que papa était d'accord, parce qu'il y a tout un faisceau d'arguments que vous avez rappelé, que papa se sentait de plus en plus diminué. Il y avait eu cet accident de voiture, bon, qui est vraisemblablement dû à des médicaments dans son café, mais il se sentait de plus en plus dépassé par le bridge et il s'était confié à deux ou trois personnes qui étaient maîtres de son destin. Et que papa, comme maman, étaient des gens particulièrement indépendants.
Mmh.
En plus, comme vous le dites très bien, il avait arrêté ses comptes 15 jours avant. Il n'y a aucune raison qu'il arrête ses comptes 15 jours avant. Et ils font une lettre à leurs petits-enfants, co-signée des deux. Et la fin de la lettre, c'est « La seule vraie valeur dans la vie, c'est la famille. Vos parents vous expliqueront plus tard. »
Comment est-ce que vos parents se procurent le tracrium dans ce scénario ?
Alors, ça... moi, j'ai fait une hypothèse. Hein. Bon, maman connaissait suffisamment de monde pour s'en fournir. À un moment donné, maman a été hospitalisée suite à une fracture du dos à la polyclinique, et je pense qu'elle a pu aller en prendre.
Alors, ce qui évidemment n'a pas joué en votre faveur sont les questions d'argent. Est-ce que le fait que vous soyez endetté, que vous soyez en vérité sur la paille au moment de la mort de vos parents...
Alors ça, c'est faux aussi.
C'est pas ça, alors. Vous n'êtes pas endetté aussi à hauteur d'une fois et demie votre salaire ?
Non, parce que déjà, je gagnais 15 000 francs à l'époque net par mois, qu'effectivement, on avait fait des emprunts, et que je venais de m'associer, et que effectivement, la première année, la société n'a pas versé de dividendes. C'est ce que j'ai expliqué lors du premier procès. Ma comptable est venue apporter le livre de compte parce que le président Blaès pensait que je cachais l'argent. Il me dit, mais je ne comprends pas où passe l'argent. Ben non, quand vous créez une société, vous n'avez pas le droit d'avoir de dividendes avant un an d'exercice. Et qu'en plus, si j'avais eu besoin d'argent, il me suffisait de demander à papa, à maman. Il me suffisait de demander.
Et il vous en aurait donné ?
Sans problème.
Vous
comme moi, si mes enfants... comme si moi, mes enfants ont besoin d'argent, il n'y a pas de problème. Si je peux les aider, je les aide immédiatement.
Je vous remercie beaucoup, Jean-Paul Gournier, d'avoir accepté, comme ça, 10 ans après, c'est pas évident, de revenir sur toute cette histoire qui vous a lavé définitivement du péché d'avoir tué vos parents, ce dont on vous a accusé pendant plusieurs années. Je serai là demain à 2h de l'après-midi pour vous raconter une autre histoire. Bon après-midi sur Europe 1.
Retrouvez Christophe Ondelatte 7 jours sur 7 de 14h à 15h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.